Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Tu m'entends pas là? Je te dis que j'ai pas de retour. Et je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
À partir de juin 2021, Radio Couleur Chartreuse innove et se déplace sur le territoire une fois par mois pour sa matinale.
Chaque troisième jeudi du mois, nous vous invitons à découvrir une nouvelle commune chartreusine au cours d'un Chartreuse Info en direct et sur place.
Dès le jeudi 17 juin, retrouvez-nous en direct à la Maison des Associations de Saint-Laurent-du-Pont et sur les ondes, bien sûr, entre 9h30 et 11h.
Au programme, l'interview du maire, découverte des associations locales et activités touristiques, bien sûr, les 40 ans de la bibliothèque et l'histoire de la commune.
Vous êtes les bienvenus, nous vous attendons nombreux, à très bientôt. Et bonjour à tous, chartreusins, chartreusines et auditeurs de Radio Couleur Chartreuse. Et bien voilà, vous venez d'entendre l'annonce sur cette matinale spéciale itinérante, tournée qui commence avec la ville de Saint-Laurent-du-Pont, qui nous accueille, hein, sur laquelle nous avons nos locaux. Pourquoi itinérante? Ben, pour partir à la rencontre de nos villages chartreusins et les découvrir sous tous leurs aspects. Voilà. Alors, au micro ce jour, Christian. Bonjour Christian.
Bonjour Sophie et bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à tous nos invités aujourd'hui.
Alors, on va les présenter, nos invités. On précise simplement qu'à la technique, nous avons Julien et Lucas. Et nous sommes effectivement accompagnés tout au long de cette matinale par Monsieur Jean-Claude Sarter, maire de Saint-Laurent-du-Pont. Bonjour Monsieur Sarter.
Bonjour à tous.
Par Didier Tirard-Collet, ex-premier adjoint au maire et puits de science concernant le massif de Chartreuse. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour à tous.
Et nous ouvrons également le bal avec Bruno Jacqui, président de LUCA, l'Union des commerçants et artisans locaux. Bonjour Bruno.
Bonjour Sophie.
Et bonjour à tous, voilà. Et on commence. Alors un petit mot d'ouverture, Monsieur Sarter, pour présenter votre ville de Saint-Laurent-du-Pont.
C'est une ville où il fait bon vivre, surtout quand il fait beau comme en ce moment. C'est une ville où l'espoir renaît comme partout ailleurs, puisque dès ce matin, on n'a plus besoin des masques quand on est en plein air. Un certain nombre d'événements reprennent. En fait, la vie continue. En 2020, on rentrait dans le tunnel. En 2021, on y est toujours, mais on en voit la sortie.
Oui, ouais, on est content. Tout le monde n'a pas capté d'ailleurs qu'on n'était plus obligé de porter le masque à l'extérieur.
Alors c'est pas si net que ça. On n'est plus obligé de porter le masque à l'extérieur, mais il faut le porter quand il y a des regroupements, par exemple sur le marché ou certains événements publics. Mais c'est une avancée. Ne boudons pas.
Alors on boude pas. On rappelle simplement que Saint-Laurent-du-Pont est tout de même le chef-lieu de canton de la Chartreuse, donc c'est le plus gros village localement.
C'est la plus grande ville, oui, puisque Saint-Laurent-du-Pont fait le quart des habitants de la communauté de communes Cœur de Chartreuse.
À savoir, combien d'habitants?
4630 habitants.
Ouais. Alors, on va enchaîner avec une présentation de l'Union des commerçants et artisans locaux. Bruno Jacqui, est-ce que vous pouvez nous présenter cette UCAL sur Saint-Laurent-du-Pont?
Oui, bien sûr. Alors l'Union commerciale, c'est 28 adhérents de commerçants de la commune de Saint-Laurent-du-Pont qui regroupent un certain nombre d'activités très variées. Alors je vais en citer quelques-unes, boulangerie, pâtisserie, boucherie, restaurant, bar, pizzeria, mais aussi institut de beauté, pharmacie, opticien, magasin de vêtements, chaussures, fleuriste, droguerie, presse, photographe, téléphonie et même un garage.
C'est dire si c'est riche au niveau commercial et artisanat. Et bon, la question qu'on peut se poser, c'est comment ressortent vos adhérents de cette méchante crise que nous avons traversée, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Comment l'ont-ils vécu et comment reprennent-ils l'activité?
Alors, on va commencer par le premier confinement qui a été difficile pour tout le monde. En fait, on a été empêché de travailler et les aides fournies par l'État étaient inférieures aux charges fixes. Donc ça posait un certain nombre de problèmes à pas mal de commerçants qui ont été obligés de contracter un PGE, le fameux prêt garanti par l'État. Alors, à partir d'octobre, les aides ont été plus conséquentes. Donc, ça a permis aux commerces qui n'étaient pas ouverts de ne pas sombrer. Par contre, ce confinement a été très, très long pour tout le monde. Surtout pour ceux qui ne pouvaient absolument pas travailler, comme les bars.
Ou les restaurants.
Ben, les restaurants
ont pu faire
un peu d'emporter. Bon, ça, c'est pas un service à table, mais c'est mieux que rien. Par contre, pour les bars, c'était très compliqué. Alors maintenant, on repart. Première chose, financièrement, il faut rembourser le fameux PGE. Donc, on espère que tous nos commerçants vont pouvoir réussir à sortir de cette crise. La reprise après 7 mois d'inactivité ou d'activité légère, c'est compliqué. C'est compliqué à tout niveau. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver du personnel compétent.
Ah, les gens sont plus motivés. On entend dire effectivement que dans les bars et la restauration, les gens ont peut-être pris l'habitude de ne pas travailler, non ? Plus travailler ou...
De moins travailler, en tout cas. Ouais. Et puis
après... et de gagner des sous en moins travaillant.
Et en plus, il faut reprendre toutes les habitudes, reprendre ses marques, etc. Certes, si on prend le cas de la restauration, on a fait du click and collect, de l'emporter. Mais la restauration, c'est pas d'emporter, c'est sur place. Et alors, c'est bien plus compliqué.
Oui.
Et donc, il faut reprendre toutes nos marques, mais on va y arriver, c'est pas un souci. Et puis, il y a aussi l'aspect psychologique, c'est-à-dire pour l'ensemble des commerces, ne pas voir de gens, en voir très peu, ça a touché le moral des commerçants. Mais bon, maintenant, avec le beau temps qui arrive, avec un certain nombre de plans de relance, donc entre autres par la mairie de Saint-Laurent-du-Pont avec les chèques commerçants.
Alors, est-ce qu'on peut faire un petit arrêt image justement sur ces chèques commerçants qui incitent à consommer local, monsieur le maire
On était parti sur 300 chèques. Je crois qu'il en restait 40 il y a 2 jours, donc il n'y a plus en rester beaucoup.
D'accord. Alors, ils sont distribués, le principe, c'est qu'ils sont distribués dans les commerces locaux, c'est ça?
Vous en achetez 2 à 10 € chacun, la mairie paye le troisième.
D'accord.
Et ils sont utilisés dans les commerces locaux.
D'accord. Donc, ça fonctionne bien.
Oui,
bah plutôt.
Une petite question par rapport au commerce. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on a déjà ici sur Saint-Laurent des commerces qui sont en prévision de fermeture ou pas? Parce que dans pas mal de villes, c'est ce qui se passe.
Alors, moi, sur l'ensemble de mes adhérents, tous les adhérents ont repris le travail. C'est pas prévu pour le moment.
D'accord, très bien. Maintenant, c'est très bonne nouvelle.
C'est l'avenir qui le dira.
Oui, bien sûr.
On espère bien. On vous a coupé dans votre élan, Bruno. On vous laisse terminer la présentation. Donc la reprise avec effectivement les mesures mises en place par la mairie avec ces chèques cadeaux.
Oui, on a aussi mis en place depuis de nombreuses années à l'Union commerciale les chèques cadeaux au cœur de Chartreuse, qui sont achetés par les entreprises et donnés à leurs salariés principalement. Donc c'est une affaire qui a bien marché encore. On a été bien soutenus cet hiver. On a fait beaucoup de ventes et tout cet argent reste dans l'économie locale. Donc c'est ce qui est intéressant.
On consomme local, on invite les gens à consommer local.
J'aurais une petite question à Didier Thiard-Collet, la mémoire de notre région. Le tissu commercial sur Saint-Laurent, ça date de quand? C'est quand même assez vieux, non?
Ça remonte sans doute à l'origine de Saint-Laurent, qui s'appelait, très avant le XIIIe siècle, Saint-Laurent du désert, et qui est devenu Saint-Laurent-du-Pont, dès l'instant où Philippe de Savoie, puisque Saint-Laurent-du-Pont était savoyard, c'est assez curieux, parce que, étant savoyard et devenu, sous Amédicis de Savoie et Jean le Bon en 1355, devenu Saint-Laurent-du-Pont, devenu surtout commune
dauphinoise.
Et ça veut dire qu'on parle beaucoup de la Savoie qui est devenue française, mais on parle très peu de notre pays qui est devenu français, lui aussi, au moins dauphinois, à cette époque-là. Et cette existence du pont, c'est 1273, existence connue du pont, qui a donné son nom à Saint-Laurent. Et c'est à ce moment-là que s'est développé énormément le commerce, parce que c'était le seul point de passage entre les voies romaines qui menaient de Vienne, Chambéry, etc., qui traversaient tout le pays. Pour traverser le Guiers, il fallait passer par le pont de Fourvoirie, le tout petit pont qui se trouve en dessous, vers la distillerie, vers l'industrie métallurgique.
Monsieur le maire a peut-être quelque chose
à
rajouter.
Quand on parle de Saint-Laurent-du-Désert, comme on parle de beaucoup de déserts, c'est pas, on tente ça comme un endroit inhabité. Au contraire, je pense que les Romains sont là depuis longtemps. Quand Didier dit Saint-Laurent-du-Désert, c'est vrai, mais c'est au sens biblique du mot désert, c'est-à-dire un endroit reculé, propice à la méditation.
D'accord.
Raison pour laquelle Chartreux, oui.
Voilà. Mais raison pour laquelle les Chartreux se sont installés un peu plus
loin. La vallée est habitée depuis les Romains, donc c'était loin d'être désert.
Précision qui a son importance. Bruno Jacqui, pour revenir à vous et à Lucal, qu'est-ce qu'on peut ajouter concernant les commerces et artisans locaux?
On peut ajouter que l'ensemble des commerces a bien repris. On vous attend tous dans nos commerces et c'est important de soutenir le commerce local.
On compte sur les Chartrousins pour le faire et même sur les gens de passage. Autre association liée à l'économie locale, les entrepreneurs de Chartreuse qui n'ont pu être présents aujourd'hui. Donc j'en parle très rapidement. Les entrepreneurs de Chartreuse, c'est 75 entreprises du territoire de Chartreuse, dont 18 laurentinoises. Elle génère 900 emplois et elle a été créée en 1998 par Emmanuel Paturle. On y reviendra un peu plus tard avec Didier sur la question de la métallurgie. Et ça génère 200 millions de chiffres d'affaires, donc c'est pas rien du tout, pour un coin un peu rural et reculé. Voilà, donc c'est l'autre association, grosse association locale qui estampillait économie. Bruno Jacqui, je vous remercie, on vous libère.
Merci Sophie, merci tout le monde.
Très bonne continuation et à bientôt. Et on se fait une petite pause musicale avec Angus et Julia Stone, Big J et Plane, Big Jet et Plane.
Radio Couleur Chartreuse, au cœur du massif.
Et voilà, nous nous retrouvons en direct ici depuis la maison des associations.
Et, de Saint-Laurent-du-Pont.
De Saint-Laurent-du-Pont, bien évidemment. Je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes toujours à Saint-Laurent-du-Pont. Depuis tout à l'heure, on n'est pas partis.
Voilà, dans une spéciale itinérante, mais pour les gens qui nous rejoindraient aujourd'hui.
Absolument. Voilà. Sophie, tu fais bien de le préciser. Alors, nous revenons avec Didier Thierard-Collet. Et cette fois-ci, on va parler de ce qui se passait sur la rive droite du Guémor, puisqu'on va parler métallurgie.
Oui, effectivement, c'est un point important de la vie. C'est un point important de la vie laurentinoise parce que le fer, c'est Fourvoirie était le berceau du fer en Chartreuse, et on date approximativement vers 1300 les débuts de création de d'infrastructures liées à la métallurgie, car en Chartreuse il y a des mines de fer. Et à partir de ces mines de fer, de Bovinan par exemple et de la Charmette, deux principales connues, des gens ont réussi à créer, alors à l'époque c'était les bas fourneaux, c'est-à-dire qu'avec le charbon de bois on arrivait à obtenir une sorte de gueuse, de masseau de fer, parce que le travail consistait à, depuis la mine, depuis le minerai, à extraire le fer, l'oxyde de fer, et débarrasser le fer de son oxyde pour justement obtenir le fer. Alors le fer c'est un produit qui est utilisé énormément de nos jours, de plus en plus. On l'appelle plutôt acier, parce que le fer pur n'a pas d'intérêt économique ou d'intérêt métallurgique. En revanche, l'acier, lui, en a beaucoup.
Alors, une petite question. La différence entre un bas fourneau et un haut fourneau?
Évidemment. Le bas fourneau, c'était quelque chose qui ne permettait pas d'obtenir la fusion, parce que la température était, disons, insuffisante, et c'est surtout au XVIIe siècle, en 1788, lorsque les Anglais ont inventé un produit beaucoup plus performant qui était le coke, à travers les coqueries, qui a permis d'augmenter considérablement la température des fours. Et à ce moment-là, on a obtenu, à travers les hauts fourneaux, une température suffisante, 1300-1400 degrés, pour obtenir la fusion du fer, enfin des minerais, et obtenir précisément une fonte. Alors la fonte, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un alliage fer plus carbone dans des proportions de l'ordre de 3-4% de carbone. Je vais passer très rapidement sur l'aspect technique parce que c'est pas très intéressant. Pourtant, il faut savoir que pour passer de la fonte à l'acier, il faut faire subir à cette fonte un certain nombre de traitements. Pourquoi est-ce qu'on préfère l'acier à la fonte? Pour des raisons mécaniques évidentes. Tout le monde sait que la fonte, c'est assez cassant à cause de la présence de carbone sous forme lamellaire, sous forme qui rend le produit cassant. Alors pour le transformer en acier, on a créé, et ça qui est important parce qu'il y en a eu beaucoup en Chartreuse, on a créé des martinets, qui consistaient donc à battre le fer pour en extraire les parties sans intérêt, dont l'excédent de carbone, dont le soufre, dont etc., tous les produits qui ne sont pas intéressants et qui, si vous voulez, n'améliorent pas ou
dégradent
incompatibles à la qualité de l'acier.
Alors Didier, est-ce qu'il y a un lien aussi avec la force hydraulique sur l'installation de ces entreprises localement?
Évidemment, la force hydraulique du Guier a été à l'origine de tout ça, et notamment le fonctionnement des martinets. Et le premier martinet connu en 1345-1350, c'était Petrus Moleni. C'est un nom qui fait un peu référence parce que c'est l'un des premiers en Chartreuse à avoir réalisé ces opérations de battage du fer. On a eu également des gens comme Vincent Charrière, sous François Ier, c'est-à-dire 16e siècle, Philippe Rubichon, enfin, il y a des gens qui ont poursuivi cette épopée métallurgique dans la Chartreuse, et les Chartreux ne surviennent qu'à la fin du 16e, 1585. Les Chartreux ont acquis le domaine de Fourvoirie à ce moment-là, et sont devenus les métallurgistes du coin.
Référent du coin. Monsieur Sarteur, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
L'eau, en plus de son attrait pour sa puissance mécanique et actionner les moulins qui, eux-mêmes, par des jeux de cam, actionnent les martinets, avait un autre intérêt, puisqu'on attribue au père Chartreux l'invention des trompes dauphinoises. Consistait à faire tomber de l'eau dans un cheminée, et l'eau, en tombant sur le parterre de ce cheminée, chassait l'air et créait une surpression qui alimentait en oxygène le foyer, qui permettait tout doucement de naviguer du bas fourneau à basse température vers les hauts fourneaux, et ce qui remplace les ventilateurs d'aujourd'hui, quoi.
D'accord. Alors, une question, c'est bien de produire de l'acier, d'allergie, tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait ?
Effectivement. Alors, si on se penche un peu sur la question, les Chartreux avaient quand même une mission, c'était de fournir en armes les croisés. C'est aussi un côté...
C'est moins sympa.
Parce qu'il fallait expliquer
ça
quand même la
foi le mythe,
à des gens incultes, hein, franchement, c'est un peu rapide. Mais effectivement, on faisait aussi beaucoup de taillanderie, des outils, pas seulement des armes, des outils, et ça a perduré pendant très très longtemps, puisque lorsque, en 1888, la fabrication du fourvoirie est passée dans les mains de Monsieur Paturle, Paul Paturle, à ce moment-là, on a eu, j'allais dire, l'activité actuelle, l'activité récente, enfin, de autour de l'acier, création d'outils, création de bandages, de pour les wagons, pour les trains, on fabriquait énormément de choses en acier. Effectivement, l'acier, c'est un point important dans la métallurgie ou dans l'économie locale et nationale, voire même mondiale.
Est-ce qu'on en exportait à l'époque? On exportait de l'acier?
Sans doute oui, parce que les centres Saint-Laurent-du-Pont avec Alvar, c'était le deuxième point important de production de l'acier en France.
D'accord.
Et alors aujourd'hui, Paturle, c'est un marché de niche, je crois. Hein.
Le problème, oui, bien sûr, c'est qu'il n'y a plus de mines ou très peu de mines d'acier en France. Alors qu'est-ce qu'on fait? On récupère. Il y a deux possibilités d'obtenir de l'acier, c'est récupérer les ferrailles, les anciennes infrastructures. Ça suffit presque à compenser la demande. Et pour ça, il y a un exemple, on y viendra peut-être tout à l'heure, pour du VSB, on en parlera,
oui.
Parce que là aussi, les récupérations des rails a beaucoup servi pendant la guerre. Mais c'est une autre affaire, donc on récupère, ou alors on fabrique à partir du minerai. Alors maintenant, en France, il n'y a plus que des hauts fourneaux dans la région du Nord, à Ucange, à Gondange, tout ça, tous les pays qui étaient très orientés vers... surtout dans la Lorraine, on parlait beaucoup de la minette de Lorraine, c'était un minerai intéressant à une époque. Alors c'est un peu tombé en désuétude maintenant, pour des tas de raisons, qu'on ne peut peut-être pas évoquer, ça serait très long. N'empêche qu'en France, on produit peu de fonte à l'état brut, on transforme beaucoup de l'acier avec des fours électriques, par exemple.
Alors, mais pour en revenir à la question sur Paturle, la production de Paturle, c'est vraiment un marché de niche. Qu'ils font aujourd'hui?
La production de Paturle, c'est surtout du laminage à froid. D'acier que Paturle reçoit, hein, qu'il achète un peu partout et qu'il transforme pour obtenir des aciers de haute qualité par laminage, c'est-à-dire par écrasement entre des cylindres de laminoir avec des traitements thermiques qui permettent de régénérer l'acier parce que l'écrasement produit, on appelle ça de l'écrouissage, enfin des difficultés, des craquelures. Et Paturle fabrique surtout des aciers au carbone, c'est-à-dire des aciers durs, et des aciers alliés, des aciers dans lesquels entrent des composants qui améliorent les qualités,
sans
tels que manganèse, etc.
Dans la composition qui doit échapper aux auditeurs qui, tout comme moi, sont certainement très néophytes en métallurgie. Mais le résultat de ce qu'ils produisent, c'est quoi? Je crois savoir qu'ils font des baleines de soutien-gorge.
Alors, les baleines, les soutiens-gorge, de moins en moins, parce que ces dames, maintenant, c'est un qui
n'emporte
tout seul,
plus.
Je suppose. Mais surtout des baleines de corset orthopédique.
Ouais.
Mais c'est vraiment un marché de niche, c'est pas l'essentiel,
oui,
de la production
ça.
De peinture, évidemment. Il se trouve que ces laminoirs font effectivement l'objet de marchés de niche pour Paturle, mais c'est un fonctionnement qui est très 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 performant actuellement. Alors ils ont aussi une production qui est intéressante, je ne sais pas où c'en est, il faudrait peut-être en parler aux gens de Paturle, ça serait intéressant de leur demander quelques explications sur le sujet. Ils font des tôles pré-laquées, c'est-à-dire de la tôle d'acier forcément pré-peinte, de manière à ce que les fabricants de machines telles que les machines à laver, la vaisselle, n'ont plus qu'à les emboutir et les plier, et c'est déjà peint d'avance. C'est assez extraordinaire parce que, effectivement, on peut difficilement imaginer qu'on fabriquait les machines après les avoir peintes.
Tout à fait.
C'est spécial.
Si je peux rajouter quelque chose,
oui.
Ce qu'il faut comprendre dans l'usine Paturle, c'est qu'ils ont compris depuis longtemps que c'était pas rentable pour eux de fabriquer des lingots d'acier au kilomètre. Par contre, de reprendre ces lingots matières de base et de les transformer, d'ajouter de la valeur ajoutée, c'est ça l'intérêt. C'est par exemple eux qui fabriquent l'acier qui rentre dans la fabrication des ressources ceintures de sécurité. C'est des produits très spéciaux à haute valeur ajoutée justement.
Donc ils ont compris qu'il fallait innover, effectivement.
Laisser tomber la quantité pour faire de la qualité.
Ben c'est ça, de toute manière, à l'heure actuelle, c'est apporter de la valeur à sa production. Hein. Le marché est tellement concurrentiel que ça devient impératif.
Hein. Les aciers à ressort, les aciers au silicium, les choses comme ça, effectivement, qui sont très particuliers.
Et bien, sur ces belles paroles, on va se faire une seconde petite pause musicale pour reprendre notre souffle avec Ben Harper, With My Own Two Hands. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. With my own two hands. With my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. With my own two hands. I'm with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race.
Quelques minutes pour la suite de la rediffusion de la matinale itinérante sur Radio Couleur Chartreuse.